Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle maladie rare, l'hyperoxalurie primitive. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Nathalie Biebeuk. Docteur Biebeuk, bonjour.
Bonjour.
Docteur Biebeuk, vous êtes pédiatre, praticien hospitalier au sein du service de néphrologie pédiatrique de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris, et clinicien au sein du centre de référence des maladies rénales héréditaires de l'enfant et de l'adulte de la filière Orchide de l'hôpital Necker. Alors, docteur Biebeuk, ma première question est très directe. Qu'est-ce que l'hyperoxalurie primitive ?
L'hyperoxalurie primitive, c'est une maladie héréditaire qui entraîne une hyperproduction d'oxalate au niveau hépatique, au niveau du foie, avec une élimination excessive de cet oxalate par le rein, qui en est en effet la principale voie d'excrétion. On distingue trois types d'oxalurie primitive. Le type 1 est de loin la plus fréquente, ça représente environ 80% des hyperoxaluries primitives et c'est la forme la plus grave. Sa prévalence est estimée à 1 à 3 cas par million d'habitants, avec une incidence probable en Europe autour de 1 cas pour 120 000 naissances par an. Les types 2 et 3 ont une fréquence que l'on connaît moins. Mais c'est donc une maladie rare, mais il est extrêmement important d'en faire le diagnostic, car en l'absence de prise en charge, la grande majorité des patients atteints de cette maladie vont évoluer vers l'insuffisance rénale terminale. De plus, en l'absence de diagnostic, il existe un risque de récidive sur le greffon lorsque les patients seront transplantés.
Alors, l'hyperoxalurie primitive est une maladie génétique. Quels sont les modes de transmission de cette pathologie ?
C'est en effet une maladie génétique dont la transmission est autosomique récessive, c'est-à-dire qu'il existe une variation pathogène sur l'allèle d'origine paternelle et sur l'allèle d'origine maternelle, et cela quel que soit le type d'hyperoxalurie primitive. Cependant, les gènes impliqués vont être différents en fonction des trois types d'hyperoxalurie, et les déficits enzymatiques vont différer selon le type d'oxalurie. Dans l'hyperoxalurie de type 1, on retrouve des variations pathogènes du gène codant pour l'AGT, qui est l'alanine glycosylate aminotransférase. La prévalence de l'hyperoxalurie primitive est plus importante dans certaines régions, notamment où les mariages consanguins sont plus fréquents, comme l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient.
Et en termes de physiopathologie, quel est le mécanisme de survenue de l'hyperoxalurie primitive ?
Alors, de nouveau, quel que soit le type d'hyperoxalurie, la physiopathologie de la maladie est la même, c'est-à-dire que c'est une hyperproduction d'oxalate au niveau des cellules hépatiques liées et secondaires au déficit enzymatique. Dans l'hyperoxalurie de type 1, la plus fréquente, le déficit en AGT entraîne une accumulation de glycoxylate qui va être transformée en oxalate par une enzyme qui s'appelle la LDH. Cet oxalate qui va être hyperproduit au niveau du foie va être excrété par le rein dans les urines sous forme d'oxalate de calcium qui est très peu soluble dans les urines et dans les tissus. Il va donc se former des lithiases rénales dans les voies urinaires et un dépôt dans le tissu rénal qui va aboutir à une néphrocalcinose.
Et docteur Biebeuk, en l'absence de prise en charge appropriée, quelle est l'évolution de l'hyperoxalurie primitive ?
Alors, dans l'hyperoxalurie type 1, cette atteinte rénale que l'on vient de décrire évolue inexorablement vers une insuffisance rénale chronique, puis terminale, et également une accumulation progressive d'oxalate dans d'autres organes, tels que les vaisseaux sanguins, les os et les articulations, la rétine, le cœur et le système nerveux central, aboutissant à cette maladie systémique qu'on appelle l'oxalose proprement dite. Les patients atteints d'hyperoxalurie de type 2 semblent néanmoins avoir une évolution moins sévère que le type 1, même si on ne peut pas toujours faire la différence initialement. Et enfin, le type 3 est la forme la moins grave. Elle peut même être silencieuse ou se limiter à la présence de calculs récurrents.
Et si on s'intéresse maintenant à l'expression clinique de cette maladie, quels sont les principaux symptômes d'alerte qui doivent faire évoquer une hyperoxalurie primitive ?
Alors, il faut bien savoir que l'hyperoxalurie de type 1, elle peut se révéler à tout âge et même dès la naissance. En Europe, l'âge médian de l'apparition des premiers signes, c'est entre 5 et 6 ans. C'est donc une maladie qui se révèle tôt dans la vie. Au sein d'une même famille, on peut observer des différences sur l'âge des premiers symptômes, la date des survenues de l'insuffisance rénale, la vitesse de progression. Mais en pratique, il faut évoquer le diagnostic devant toute lithiase chez l'enfant, quel que soit l'âge de cet enfant. Tout adulte qui présente des lithiases multiples ou récidivantes, sachant en pratique que tout calcul éliminé ou extrait doit être examiné dans un laboratoire de biochimie spécialisé, ce qui pourra orienter vers le diagnostic de l'hyperoxalurie. Il faut évoquer ce diagnostic également devant toute découverte de néphrocalcinose chez un enfant ou chez un adulte, surtout si c'est associé à une dégradation de la fonction rénale. Et enfin, toute histoire familiale d'hyperoxalurie doit inciter à évoquer le diagnostic chez les membres de la famille. Évidemment, la dernière chose, c'est que le diagnostic devra être évoqué devant une insuffisance rénale chronique dont la cause reste inconnue, mais ça, c'est plus du domaine des services de néphrologie.
Eh bien, merci infiniment, Dr Biebuyck, de nous avoir éclairé sur l'hyperoxalurie primitive. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.raralecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.